mercredi 21 octobre, l'info sur RMC. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC.
Les dernières infos, Raphaël Duchemin.
Que va-t-il se passer aujourd'hui? C'est ce que se demandent les habitants de Moiran en Isère. Hier, leur commune a été mise à sac par la communauté des gens du voyage. C'est une histoire de permission refusée à deux détenus pour assister à des obsèques qui a mis le feu aux poudres. Et le calme est toujours très précaire, Gwenaëlle Vindrestin, car c'est aujourd'hui que la justice doit de nouveau se prononcer.
Des carcasses encore fumantes sur le bord du quai SNCF, noircies par les flammes, du goudron fondu sur la route départementale. Voilà ce qu'a vu Joël ce matin en allant prendre son train. Et elle ne sait pas comment elle va retrouver sa vie en rentrant du travail ce soir.
C'est une escalade. On vient de son boulot, on retrouve une voiture comme ça. Bon là, il y a la tristesse, il y a le deuil, il y a un contexte où malgré tout, on ne peut pas accepter.
La famille d'un détenu de 24 ans incarcéré à Eton, en Savoie, a fait une nouvelle demande de permission pour qu'il puisse assister aux funérailles de son petit frère. Et si cette nouvelle demande est refusée, les gens du voyage l'ont annoncé, les violences recommenceront. Adèle est la mère de ses deux frères.
Moi, je demande juste c'est que les funérailles se passent dans le calme. Maintenant, personnellement, j'ai plus rien à perdre. Personne voulait ça. Ça avait pas lieu d'en arriver là. Ça prenez une heure en tout. Mais bon, voilà, il y a des choses qui ont dérapé, mais c'est pas moi qui ai voulu comme ça.
Et une centaine de forces de l'ordre sont toujours mobilisées à Moiran, notamment pour trouver et interpeller les émeutiers.
Et Christiane Taubira a estimé ce matin qu'il n'y avait pas de démocratie possible quand une décision de justice est contestée dans la violence. Violence jugée d'ailleurs inacceptable par la garde des Sceaux, qui reçoit aujourd'hui les représentants des avocats à la chancellerie. Le malaise est profond, les barreaux se mettent en grève un à un. C'est le cas à Rouen, où Maître Noël a déjà cessé de travailler depuis hier.
On va avoir un énorme impact sur les justiciables qu'on défend. Et on a vraiment l'impression d'être tellement floués et grugés par le gouvernement. Ce qu'on cherche, c'est à faire comprendre à nos clients que bientôt, si ça continue comme ça, ça sera économiquement impossible de les défendre. Par exemple, pour une libération conditionnelle, moi, je vais être payé à l'équivalent de 100 euros. 100 euros pour préparer un projet de sortie qui prend parfois des mois et des mois. C'est invivable. Et donc ça, ça risque de diminuer encore. Ben là, nous, pour une fois, on est décidé à aller jusqu'au bout et pas simplement à manifester en robe dans les rues pendant 5 minutes.
9h07 sur RMC, Bernard Cazeneuve retourne à Calais. Aujourd'hui, le ministre doit y annoncer de nouvelles mesures alors qu'un appel est signé par 800 personnalités. Jean-François Corti, directeur des opérations à Médecins du Monde, a lui aussi mis sa signature au bas du texte pour réclamer que cesse l'indignité de la jungle à Calais.
Ce serait injuste de dire que les autorités n'ont rien fait. En revanche, les actions ont été chaque fois sous-calibrées avec des réponses qui n'ont pas apporté un soutien à ces milliers de personnes.
Les politiques ont peur.
L'État français, qui est la sixième puissance économique mondiale, a la capacité, l'ingénierie, pour pouvoir faire en sorte qu'on n'ait pas des milliers de personnes qui soient en difficulté pour répondre à des besoins vitaux. C'est ça qui est insupportable, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons relayé cet appel. On a la capacité de proposer autre chose que des tentes dans la sixième puissance économique mondiale. Aujourd'hui, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, d'assumer les conventions de Genève qu'ils ont signées il y a plusieurs années et faire en sorte qu'on puisse protéger effectivement ces personnes.
Le président syrien s'est rendu à Moscou. Rencontre entre Bachar el-Assad et Vladimir Poutine. C'est évidemment de la campagne militaire menée en Syrie qu'il a notamment été question. Toyota rappelle 6,5 millions de véhicules à travers le monde. La firme japonaise veut vérifier le bon fonctionnement d'une commande de lève-vitre pour éviter un risque de surchauffe dans les véhicules. Parmi ces voitures, 100 000 en France, des Yaris, des RAV4 ou encore des Corolla sont concernés. C'est presque fini pour Lyon, mais ce soir, eh bien, c'est le PSG qui joue. Le PSG plutôt en confiance d'ailleurs face au Real Madrid. Les Parisiens sont en Ligue des Champions, très à l'aise, les hommes de Laurent Blanc, comme d'ailleurs le coach lui-même.
On peut gagner parce qu'on a les qualités pour gagner, on a la motivation pour le faire, on est à domicile, on est chez nous, parce que l'année dernière on est arrivé aussi à gagner des grandes Europes, je pense notamment au FC Barcelone l'année dernière chez nous. Donc voilà, ça on est capable de le faire, mais il faut préparer ce match-là avec beaucoup d'envie, de motivation, en respectant l'adversaire bien sûr, mais en étant sûr qu'en jouant son propre jeu, on peut gagner et gagner aussi d'autres matchs.
Et le match est à vivre bien sûr sur RMC dès 20h45. Notez par ailleurs que la numéro 1 mondiale en tennis, Serena Williams, qui a écourté sa saison 2015 pour cause d'épuisement, reviendra très bientôt à la compétition à l'occasion de la Hopman Cup 2016. Ont annoncé les organisateurs de cette compétition, les organisateurs australiens. La bourse à Paris, elle est en hausse à l'ouverture. Le CAC est à 4683 points. Il est 9h09, 32-16, hashtag Bourdin Direct. Quels sont les sujets qui font réagir ce matin, Mathieu?
Le Far West en pleine région Rhône-Alpes. Les violents incidents de Moirans en Isère hier soir. Plusieurs dizaines de personnes qui ont mis le feu à des carcasses de voitures et des palettes pour demander la libération provisoire de deux de leurs amis actuellement incarcérés. Libération pour assister à un enterrement. Dans quelques minutes, vous entendrez Marie-Jeanne Audy de l'Union syndicale de la magistrature, le député de la circonscription aussi, Jean-Pierre Barbier, et vos réactions au 32-16. Comment expliquer ces violences? Vous les avez peut-être constatées sur place dans la région, les liaisons routières et ferroviaires encombrées hier. Vous avez été gênés. Prenez la parole dans Bourdin Direct ce matin. C'est un grand jour pour les geeks de la planète, pour les gamins des années 80-90. Nom de Zeus, on est le 21 octobre 2015. C'est la date à laquelle les héros de Retour vers le futur découvrent l'avenir. Ils découvrent le futur grâce à leur formidable machine à voyager dans le temps qui les emmène donc en 2015. Alors il y a des fans parmi vous, j'en suis sûr. Vous nous passez un coup de fil au 32-16. Le futur, on y est, n'est-ce pas? N'est-il pas un petit peu décevant? Pourquoi ce film est-il si important pour vous? Écoutez Pierre Attet, il est comédien. C'est lui la voix française de Doc dans la trilogie.
C'est devenu un film culte. La jeunesse de maintenant, elle rêve au voyage que représente le Doc. C'est-à-dire partir, braver tous les dangers, avec une naïveté incroyable d'ailleurs. On rêve de rencontrer un mec comme ça.
Pas de micro-ondes à réhydrater des pizzas, mais beaucoup de nos technologies d'aujourd'hui étaient déjà dans Retour vers le futur. Anthony Morel revient ce matin. Le futur vous a-t-il déçu? Je posais la question. D'ailleurs, si vous pouviez aller dans le futur, qui feriez-vous? Et notre consultation ce matin, le futur vous fait-il rêver? Oui ou non, par SMS 6 10 71 32 16 rmc.fr. Et puis un mot de l'autre événement de ce 21 octobre, PSG Real Madrid. C'est le futur très proche ce soir, Parc des Princes, troisième journée de Ligue des Champions, 20h45 à vivre sur RMC bien sûr. Le PSG peut-il gagner, battre la bande à Cristiano Ronaldo? Est-ce que c'est l'année ou jamais pour le PSG en Ligue des Champions? Supporters, on vous attend au 32-16 ce matin, rmc.fr et le hashtag Bourdin Direct sur les réseaux sociaux.
Il est 9h11, nous allons revenir sur ce qui s'est passé à Moirans hier soir, à travers d'abord des témoignages. Jonathan et Rémi sont là, ils étaient hier soir à Moirans, et puis deux invités, Marie-Jeanne Audy, qui est vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats, bonjour madame, et Jean-Pierre Barbier, qui est député de l'Isère. C'est votre circonscription?
Non, c'est pas ma circonscription.
Non, c'est pas votre circonscription.
Je suis président du conseil départemental.
Président du conseil départemental, c'est donc votre département, hein, Jean-Pierre Barbier. Voilà, vous savez ce que nous allons faire tout de suite pour revenir sur ces événements d'hier soir? Nous allons écouter deux auditeurs d'RMC qui étaient sur place hier soir. De nombreux auditeurs nous ont appelés. Nous avons choisi d'écouter Jonathan d'abord, qui est technicien dans l'Isère. Bonjour Jonathan.
Bonjour Jean-Jacques.
Vous avez 27 ans. Vous vivez à Moirans?
Non, non, pas exactement. Je vis sur une commune qui est pas très loin de Moirans. Je fais le trajet en fait tous les jours, donc d'une commune qui s'appelle Izo, qui se trouve à quelques kilomètres, jusqu'à Moirans, pour prendre mon train, pour me rendre sur l'agglomération grenobloise pour aller travailler.
Voilà, vous prenez le train à Moirans pour aller travailler tous les jours. Bien, Rémi est aussi avec nous. Bonjour Rémi.
Bonjour Jacques.
Rémi, vous êtes à Moirans, vous, ou
non,
même
moi,
chose?
Non, pareil, j'habite dans la banlieue grenobloise et je prends le train tous les jours pour aller travailler sur Rive, moi.
Voilà, pour aller travailler sur Rive. Et tous les jours, vous prenez vous aussi votre train à Moirans.
Qu'est-ce que vous... Vélo, ouais, tout à fait.
Oui, voilà. Qu'est-ce que vous avez vécu hier soir, Jonathan?
Alors, donc pour être précis, donc je devais donc rentrer habituellement donc avec mon train donc de Grenoble à Moirans. Chose que je n'ai pas pu effectuer parce que donc le trafic était perturbé donc sur la gare de Moirans. Donc oui. On m'a redéposé donc sur la commune de Moirans en voiture. Donc là où je voulais donc récupérer mon véhicule, où c'était quasiment impossible d'accéder, enfin de rentrer sur la commune de Moirans. Donc on a passé énormément de temps à accéder à ce parking pour récupérer nos véhicules qui étaient, on va dire, sur la sellette.
Oui.
Et donc j'ai pu donc au bout d'un certain temps donc récupérer mon véhicule. Et sur le chemin donc du retour, j'ai pu donc croiser, enfin sur le bord de la route, des personnes qui faisaient du stop, vous savez, pour rentrer chez eux, parce que leur voiture avait été calcinée.
Voilà, donc des voitures qui étaient garées sur le parking de la gare, ont été brûlées.
Tout à fait.
Il
oui.
n'y avait pas que, des voitures d'une casse.
Non,
on est,
non,
on est bien d'accord, parce que j'ai entendu ça. Hein. Il y a aussi des voitures de particuliers garées sur le parking qui ont été détruites.
Tout à fait. Bon. En fait, vous avez vous-même la preuve sur vos images, en fait, parce que c'est une casse utilitaire, si vous voulez, de véhicules utilitaires.
D'accord.
Donc on voit bien ces véhicules utilitaires sur les images.
Oui.
Vous pouvez voir aussi quelques véhicules, on va dire,
particuliers,
Oui. Vous pouvez voir des grosses berlines assez récentes qui ont été calcinées et j'ai donc pu ramener ces personnes à leur domicile.
Bon, Jonathan, Rémi, vous êtes rentré à vélo, hein, chez vous.
Voilà, tout à fait. Bah, parce qu'en fait, je suis arrivé en gare de Voiron, qui est la gare juste avant Moiran, direction Grenoble, et on a été bloqué à Voiron. Donc du coup, moi, quand j'ai entendu les infos, là, ce qui se passait, j'ai décidé de rentrer à vélo, parce que je pensais que ça allait durer un moment. Comme j'avais appris il y a 3 mois les événements avec la première fois que les Gitans, je me suis dit que ça allait durer un moment.
Les gens du voyage, c'était sur l'autoroute 1.
Voilà, tout à fait. Je me rappelle de cette époque-là, donc j'ai décidé de rentrer à vélo parce que je pensais que ça allait durer un moment. C'est ce que j'ai fait, et pour rentrer chez moi, il fallait que je récupère la piste cyclable au niveau de Moiran. Donc je suis passé par Moiran, et là, je suis arrivé à un barrage de gendarmes. Il y avait au moins huit voitures qui étaient en train de brûler. Et donc de là, j'ai demandé comment je pouvais rentrer. Les gendarmes savaient pas trop, ils étaient pas de la région, et je leur ai demandé pourquoi le train était bloqué, parce que il brûlait en fait des voitures sur la route. Et ils m'ont dit que ben, ils étaient en train de mettre des voitures sur les voies ferrées. Donc je leur ai demandé pourquoi s'ils faisaient quelque chose et pourquoi ils faisaient rien. Et ils m'ont dit on a ordre de rien faire. Pour l'instant on a ordre de rien faire. Alors j'étais surpris et j'ai décidé ensuite de rentrer à vélo. Je suis passé par une zone industrielle à Moiran qui s'appelle Centrale. Et là-bas il y avait des militaires qui étaient parqués là-bas avec de gros engins de manutention et ils attendaient. Donc je pense qu'ils ont laissé courir l'affaire pour ensuite déblayer derrière.
Jean-Pierre Barbier, c'est vrai que les gendarmes ont attendu pour intervenir ou pas?
Alors si vous voulez, moi je comprends l'exaspération de la population parce que ces actes sont inadmissibles. Simplement, les forces de l'ordre, et moi j'ai été en lien avec le préfet très régulièrement, les forces de l'ordre ont attendu de se regrouper, d'être en nombre suffisant pour pouvoir intervenir de manière parfaite,
efficace.
C'est pour ça que... Mais je comprends ce que dit votre auditeur, c'est que il y a eu ce temps de regroupement des forces de gendarmerie, des forces de police, qui devaient intervenir en protection des sapeurs-pompiers, parce que les sapeurs-pompiers de l'Isère ont fait aussi un travail remarquable. Tout ceci a été coordonné, tout ceci a pris du temps. Peut-être trop de temps, mais quand on regarde l'évolution de la situation, hier au soir, les choses ont été maîtrisées et la nuit a été calme à Moiran. Donc moi, ce que je veux, c'est quand même rendre hommage au sang-froid du préfet, des forces de gendarmerie de police et des sapeurs-pompiers.
Bon, cela dit, il y a eu des dégâts, et de gros dégâts. Des hommes, des femmes qui avaient laissé leur voiture là, qui sont allés bosser, qui l'ont retrouvée calcinée.
Ah ben ça, c'est...
Je vais pas employer le mot gens du voyage à Moiran parce que je préfère parler comme le fait le maire d'ailleurs de voyageurs. Pourquoi? Parce que cette population qui s'est manifestée hier est une population qui vit à Moiran, qui ne voyage plus, qui s'est sédentarisée à Moiran. Donc, qui vit toujours dans des caravanes ou dans des conditions différentes, mais qui est une population de Moiran. Hein
oui,
c'est ce que dit le maire.
Oui, le maire le dit, mais on constate quand même c'est que cette population a tout de même conservé un esprit un peu particulier.
Oui, ça veut dire quoi un peu particulier?
Un peu particulier dans le sens où c'est une communauté qui réagit de manière communautaire face à une décision de justice et cette réaction n'est pas acceptable. Moi, j'entends les propos du maire de Moiran et pour lui, la situation est complexe parce qu'il va falloir gérer le lendemain, mais voilà.
Gérer d'autant plus que ces gitans ont décidé, ces voyageurs ont décidé de remanifester si aujourd'hui une nouvelle décision de justice ne donne pas la possibilité à l'un des leurs d'assister aux obsèques de son frère. Hein, Marie-Jeanne Audi. Mais ça se prend en deux temps, la décision
Alors, oui. La commission de violence pour influer sur le cours de la justice est totalement intolérable. Nous sommes dans un état de droit, la justice doit travailler sereinement et il est absolument inadmissible que des violences puissent être commises pour obtenir une décision de justice favorable.
Oui.
Alors maintenant, sur les permissions de sortie, il y a deux choses. Il y a deux cadres juridiques différents. Il y a d'une part les permissions de sortir et d'autre part les autorisations de sortie sous escorte. Les permissions de sortir, c'est la procédure qui est lue hier. Donc le juge de l'application des peines a refusé... Voilà, a dit non. Et la chambre de l'application des peines, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé cette décision. Voilà.
Donc aujourd'hui, une deuxième décision de justice sera rendue.
C'est un autre cadre, donc différent, l'autorisation de sortie sous escorte, c'est-à-dire que la personne sort, mais elle est accompagnée des forces de l'ordre.
Oui.
C'est cette demande qui a été faite. Donc le juge de l'application des peines doit se prononcer à nouveau sur cette demande qui est différente. Le juge de l'application des peines, pour statuer, vous savez, la justice est une balance. Donc vous avez deux choses. Vous avez d'une part l'intérêt de la personne qui demande, et on comprend bien que un frère, un cousin veuille se rendre à l'inhumation d'un proche. Mais dans l'autre plateau de la balance, vous avez, et c'est ça que le juge de l'application des peines va peser, donc d'une part cet intérêt, et d'autre part les risques d'incident, les risques de violence, les risques d'évasion également, et les risques de violence aussi sur les forces de l'ordre qui peuvent accompagner cette personne. Donc le juge de l'application des peines va devoir statuer en fonction de ces éléments. Et pour apprécier également, le juge de l'application des peines... peut faire référence au comportement de la personne en détention, s'il a un comportement calme ou au contraire violent.
Alors je rappelle que le frère de la personne qui est en prison actuellement, si j'ai bien compris, vous allez me dire si je dis des bêtises, a eu un accident de voiture avec deux autres personnes, voiture qu'ils avaient volée.
Oui.
Hein? Et il est mort dans cet accident de voiture. Et son frère qui est en prison veut assister à ses obsèques. Donc a fait cette demande, refusée hier par le juge. On va voir ce que dit la justice concernant cette sortie sous escorte. Nous verrons bien, mais compte tenu de ce qui s'est passé hier, évidemment, à Moirans, enfin, je veux pas préjuger... Hein? Mais ça va peser dans la balance quand même, Marie-Jeanne Audi, non ?
Oui, je viens de vous dire, ce qui pesait dans la balance, c'était...
Eh oui, maintenant, c'est la sécurité, oui.
C'est un des éléments, des éléments, mais c'est pas le seul. Donc le juge, il va apprécier en fonction de ces éléments.
Ouais, qu'est-ce que vous dites, vous, député ?
Moi, ce que je dis, enfin, très clairement, et c'est vrai que la situation me paraît quand même assez claire. Vous avez bien fait de rappeler aussi les circonstances de l'accident, ces voitures volées, individus cagoulés et armés. Donc ça plante aussi un décor qui est nécessaire de rappeler, de dire que pour moi aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé et malgré les difficultés qui sont évoqués de la justice, l'immense majorité de la population ne comprendrait pas que suite aux violences qu'il y a eu hier à Moirans, on laisse sortir la personne parce que ça voudrait dire que la justice a cédé à la violence, même si j'entends la difficulté du juge qui va devoir apprécier les conditions de cette sortie, ce serait à mon sens incompréhensible.
Oui, c'est ce que vous dites. Vous dites, il ne faut pas que ce détenu sorte pour aller assister aux obsèques de son frère.
Et en plus,
soyons clairs, c'est ce que vous pensez.
C'est ce que je pense tout à fait. Jean-Pierre escorte de gendarmerie. Oui. Mais combien, compte tenu du contexte, ce serait mettre en danger des personnels de gendarmerie.
Bon, on reprend ce débat, on le poursuit avec de nouvelles interventions dans un instant. 9h22. Vous êtes sur RMC. Allez, Mathieu.
Tout autre chose. Ce matin, nous parlons de 21 octobre 2015, c'est aujourd'hui que les héros de Retour vers le futur devaient découvrir l'avenir, une trilogie culte aujourd'hui, futur fantasmé des inventions et du rêve. Et nous vous consultons ce matin, le futur vous fait-il rêver, oui ou non, par SMS 6 10 71. Et pour l'instant, c'est assez pessimiste puisque vous votez non à 65%.
Bourdin Direct, RMC tout en direct.
Et vos messages autour de ce qui s'est passé à Moirans. Christian nous écrit, si les gens du voyage ont un ou des représentants ou des gens assez sages pour les fédérer en France, il serait temps qu'ils comprennent que leur image est en train de se dégrader et qu'aujourd'hui ils font peur. Là où l'entente avec les Français sédentaires était encore possible, le doute s'installe et ces gens du voyage participent par leurs actes à la montée des extrémismes et à la radicalisation des opinions. La démocratie leur permet de circuler encore librement. Je pense qu'ils devraient prendre conscience qu'un régime plus autoritaire pourrait ne plus tolérer autant de liberté. Martial qui nous dit que c'était une honte de laisser faire des choses pareilles. Le pire, c'est qu'ils ne seront pas inquiétés comme d'habitude. Mais encore une fois, ils ont raison de faire ça puisqu'en août, ça a marché. Donc, sur le même ton, Mathieu qui nous a écrit comment expliquer ces violences. C'est très simple. Ils prennent exemple sur les routiers, sur les taxis, sur les agriculteurs. Et ça fonctionne. La violence permet d'obtenir ce que l'on veut en France. Frédéric nous écrit notre gouvernement reste impuissant contre toutes ces personnes qui ne veulent pas se plier aux règles de la République. Nous, contribuables, c'est nous qui finançons tout ça. Voilà ce que dit Frédéric ce matin. Il l'a écrit sur le Facebook Bourdin Direct.
RMC, Bourdin Direct.
Allez, il est 9h27. J'ai quelques questions très précises après ce qui s'est passé à Morhan à poser. Très précises, c'est un pléonasme, précise. D'abord à Marie-Jeanne Audy. Vous êtes, je le rappelle, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats, l'USM, qui est le principal syndicat de magistrats classé ni à droite ni à gauche, qui est apolitique, qui défend les magistrats. Et la justice, alors précisément la justice, aujourd'hui, la décision qui sera prise, nouvelle décision, sera sous l'influence des événements d'hier, franchement.
Pas forcément sous l'influence des événements d'hier, mais bien sûr que ce sera un élément qui va peut-être intervenir dans la balance. Le fait d'autoriser une sortie sous escorte, il faut pas non plus exposer l'escorte à des risques. Oui. Donc c'est un des éléments qui sera certainement pris en compte par le juge d'application.
Ça risque de faire peser la balance dans un certain sens.
Mais la justice se rend dans la sérénité, dans le calme du cabinet
et pas sous la
pression de la rue.
Ah ouais, d'accord. J'ai compris. Dites-moi, Jean-Pierre Barbier, si la justice ne libère pas ce détenu pour lui permettre de se rendre aux obsèques de son frère, le risque est important que ça recommence.
Oui, le risque est important.
Vous êtes prêt?
Mais moi, je suis prêt.
Enfin,
le préfet est prêt, les services sont prêts. Et je crois qu'il faut que nous soyons tous prêts, de manière républicaine, à soutenir une décision de justice. Il n'est pas tolérable que des individus puissent faire de tels agissements, mettre la justice sous pression pour obtenir une décision. Moi, je crois qu'il ne faut pas céder.
Mais ils l'ont obtenu.
Aujourd'hui, c'est un véritable défi.
Il y a quelques semaines, ils l'ont obtenu.
Écoutez, c'est peut-être pas tout à fait
la même affaire, mais enfin, ils l'ont obtenu.
Ouais, je crois que c'est l'image qu'on en a eue.
Non, c'est pas la même affaire.
C'est pas la même affaire, c'est vrai.
Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il faut peser la personnalité de la personne qui demande la permission de sortir. Et les faits sont pas forcément les mêmes. La condamnation n'est pas...
Sauf que le comportement de ceux qui ont manifesté leur solidarité avec celui qui devait sortir, le comportement est le même.
Le comportement est le même, mais la décision n'est pas motivée forcément par le comportement de ceux qui essaient d'influer sur le cours de la justice, mais par le dossier, par la personnalité de la personne qui demande la permission de sortie, par son comportement en détention. Ouais. Donc ce sont des éléments qui sont différents et qui diffèrent d'un dossier à l'autre.
Oui, Jean-Pierre Barbier, j'ai une autre question. Comment se fait-il que personne n'ait été interpellé hier ?
Écoutez, ça c'est pas de mon ressort, mais l'interpellation relève du procureur. Hier au soir, dans la violence que nous avons vue, les interpellations, en tout cas, semblaient difficiles, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. La justice, je le pense, madame est là, elle pourra le préciser, mais la justice va bien sûr suivre son cours. Moi, je souhaite que les auteurs de ces actes soient recherchés, poursuivis et condamnés. On ne peut pas accepter que de tels actes aient été menés sans qu'il y ait une action de justice qui soit mise en œuvre derrière, mais je fais confiance...
La justice va poursuivre.
Alors j'ai entendu comme vous hier le préfet indiquer qu'il n'y a pas eu d'interpellation et qu'il n'y en aurait pas dans le cadre des événements du mois immédiatement. Ça m'a étonné parce que l'action publique est quand même du ressort du procureur de la République et non pas du préfet. Donc je comprends pas tout à fait comment le préfet peut décider de l'action publique et du fait qu'il y a des interpellations ou pas.
Simplement une précision, moi j'ai écouté l'interview du préfet jusqu'au bout et effectivement il a dit qu'il n'y avait pas eu d'interpellation sur le moment, mais que la justice, bien évidemment, diligenterait des poursuites. Donc voilà, je crois qu'il faut pas... Demain, il y aura une mise en cause des personnes qui ont proféré ces actes. En tout cas, moi je le souhaite, il faut qu'ils soient poursuivis, recherchés et condamnés.
Bien, on va prendre Nicolas Henry et Ismaël, et puis ensuite je vous libérerai. Nicolas, trader dans les Hauts-de-Seine, bonjour Nicolas.
Bonjour Jean-Jacques, vous allez bien ?
Oui, très bien. Qu'est-ce que vous vouliez dire à nos invités que... et, et allez-y.
Quand je suis désolé, moi je tombe de l'armoire quand j'entends le maire de Moirans, quand j'entends ce que vos invités sont très intéressants. Mais enfin, on tombe de l'armoire. Je veux dire, en plus c'est pas la première affaire. Début septembre, il y avait eu encore un en Saône-et-Loire. Après, il y a eu quoi encore? Il y a eu, j'ai regardé sur internet, je me suis amusé, j'étais sur des journaux normaux, hein, j'ai pas été sur des journaux bizarres. Dans le Tarn aussi, des gens du voyage qui s'opposent à une autopsie, on leur a rendu le corps. 50 000 euros de dégâts parce qu'il y a un gars qui voulait pas assister à des funérailles alors qu'il était en prison. Il y a eu encore une histoire aussi dans la Somme. Blocage, 1 million d'euros de pertes sur la 1 parce qu'il n'y avait pas les péages qui étaient bloqués. Et à la fin, on nous apprend, Claude Bartolone affirme que l'État va déposer plainte, mais sur aucune des affaires que j'ai précédemment citées, des plaintes n'avaient été déposées.
Bon, alors voilà. Nicolas, qu'est-ce que vous dites ?
Eh ben moi je vais vous dire, c'est très simple. Moi j'ai l'impression quand même, madame disait les événements ne doivent pas peser dans la balance de la justice. Moi j'ai l'impression que les événements ils pèsent sacrément dans la balance de la justice. Quand vous écoutez le maire de Moirans, élu local, qui vous dit qu'il faudrait créer un statut de voyageur sédentaire. Oui, d'immobilité dans le mouvement quoi. Ben pourquoi ? Parce que c'est des sédentaires, ce qui veut dire des électeurs, ce qui veut dire que monsieur dans sa commune de 8000 habitants, il a pas du tout envie que les gens votent contre lui. Donc en fait c'est ça, on est dans un système.
C'est ça, Jean-Pierre Barbier, je vois réagir en entendant
oui,
Nicolas.
Évidemment.
Attendez. Oui, bah alors Nicolas, restez avec nous Nicolas. Mais Jean-Pierre Barbier.
Non, mais moi j'entends l'exaspération de l'auditeur. Simplement, je crois que il téléphone d'un peu loin de la commune de Moirans. Le maire de Moirans, qui est une petite commune de 8000 habitants, demain, il sera seul pour gérer la situation. Et que quand vous êtes maire d'une commune comme ça, avec une communauté qui peut devenir...
Allez-y.
Le maire, hier au soir, je l'ai eu à 16h30. Il était tout seul, avec son directeur de cabinet, retranché dans la mairie, avec une centaine de personnes qui faisaient brûler des voitures à quelques centaines de mètres et qui menaçaient de mettre le feu à la mairie. Il était tout seul parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il fallait le temps que les gendarmes se regroupent, il fallait le temps que les pompiers puissent intervenir. Mais écoutez, quand vous vivez ce genre de situation, il faut aussi avoir du respect pour les élus locaux qui sont face et parfois seuls à ces situations. Quand vous êtes maire d'une commune de 8000 habitants, vous n'avez pas 3000 gendarmes.
Je rappelle que le maire est médecin, qu'il est divers droit politiquement.
Quand il n'y a pas 4 précédents, forcément, quand il n'y a pas 4 précédents, ça n'arrive pas. Vous allez dans des pays très démocratiques, il n'y a pas de situation
insurrectionnelle. Ça, c'est un autre débat.
Vous trouvez normal qu'en France, il y ait une situation insurrectionnelle dans une commune?
Je ne trouve pas ça normal du tout.
Moi, j'ai pas de soucis.
Personne ne trouve ça bien, Nicolas. Merci, Nicolas. Henri, vous êtes chef d'entreprise dans le transport dans le Var. Vous dites, encore une fois, c'est la faute de la justice. La justice a une méconnaissance de la communauté des gens du voyage. Comment se fait-il qu'on puisse laisser sortir des fichiers S? Enfin, il a été fichier S après sa sortie, et pas un gitan enterrer son frère. Ça ne tourne pas rond. Bonjour, Henri.
Bonjour à vos auditeurs. Bah écoutez, moi je partage un peu l'avis au départ de l'auditeur précédent. Je suis très atterré d'entendre tout ce qui se dit, parce qu'en fait, si on dénature un peu le problème, on enlève tout ça, c'est quoi? C'est juste une méconnaissance de cette communauté dans laquelle le culte de la mort est très profond. Les gens accompagnent les morts, et donc moi je pense que la décision, elle s'est faite en toute méconnaissance de cette communauté. Parce que tout ce bazar, tout ce qui se passe, tous les gens qui sont occupés, tout l'argent qu'on est en train de dépenser avec les forces publiques pour une heure de sortie. Il sortait, il enterrait son frère, on le raccompagnait en prison, et on n'aurait jamais entendu parler de Moirans. On n'aurait jamais eu tout ça.
Le maire a reproché à la justice de ne pas avoir été prévenu. Le maire dit, moi si j'avais été prévenu, si le préfet avait été prévenu du refus de sortie, eh bien plus tôt, nous aurions pu faire en sorte qu'il n'y ait pas cette réaction.
Il y a des chances, il y a des chances, parce qu'on aurait peut-être pu discuter avec cette communauté. Alors,
attendez, on va demander à Marie Janodi, qui est magistrate, qui va nous dire.
D'abord, Henri a une boule de cristal, puisqu'il sait qu'il n'y aurait aucune violence, il n'y aurait pas eu d'incident du tout si le juge d'application des peines avait permis cette sortie. Il n'en sait rien, il connaît pas le dossier, il connaît pas le prévenu.
Mais vous les connaissez pas, ces gens-là. Mais vous êtes les juges et vous ne refusez systématiquement de reconnaître.
Mais on ne parle pas de ces gens, on ne parle pas de ces gens-là.
Vous vous rendez compte, madame, c'est une personne. Vous allumez des feux encore. Il suffirait simplement que la justice dise, écoutez, on a fait une
Est-ce que je peux répondre?
Et on annule, on le laisse sortir, il enferme son frère.
Ne vous énervez pas comme ça, parce que je souhaite répondre. D'abord, ce sont pas ces gens, c'est un dossier, c'est une personne. Et cette personne-là, le juge de l'application des peines, étudie son dossier en particulier, savoir quelle est sa personnalité, quels faits il a commis, quels sont les risques. Ouais. Et c'est au cas par cas. C'est pas parce que c'est une communauté de gens du voyage.
Henri dit, il y a des traditions que l'on doit aussi respecter.
Il y a des traditions qu'on doit respecter, c'est évident. Mais quand vous mettez dans la balance, d'une part, la tradition qui doit être respectée, et d'autre part, les risques que vous faites commettre à la société et aux forces de l'ordre. Voilà, les choses sont dans la balance.
Henri, la tradition. Oui. Mais Henri.
Quand on laisse sortir des djihadistes qui sont radicalisés et qui se battent, en plus, qui annoncent. Ils vont pas rentrer.
Là, c'est l'amalgame, c'est un peu n'importe quoi.
Henri, je voudrais quand même rappeler que celui qui doit être enterré a volé une voiture, il était cagoulé. Enfin bon, je veux bien tout ce qu'on veut, Henri, mais ça, c'est pas une tradition.
Pas du tout. Je suis d'accord avec vous, mais il faut mesurer. En fait, c'est de la mesure de risque. Mais ça, ils le savent pas, parce qu'ils savent pas comment fonctionne cette communauté-là. Encore une fois, je les défends pas. Simplement, je connais peut-être un peu mieux que le juge d'application des peines. Oui. Bon, il y a des choses qui sont fondamentales dans leur vie, et on est en train de se
blesser. Je pense que le juge d'application des peines le connaît autant que vous.
Qui n'a pas lieu d'être.
Oui, bon, allez, donc, on termine.
Mais moi, je considère.
Bon, on considère que le juge a pris une mauvaise décision, quoi. C'est ce que vous voulez dire.
En ignorant.
Jean-Pierre. Jean-Pierre Barbet.
Non, mais écoutez, monsieur, moi, si je vous écoute, ça veut dire que si on mesure le risque, maintenant on sait que la communauté des gens du voyage peut être violente si on ne laisse pas sortir un des leurs. Donc, de tradition, maintenant on les laissera tout le temps sortir parce qu'effectivement il y a un risque de violence. Tout ceci n'est pas acceptable. Il y a la justice, des décisions. Quelle que soit la décision, quelles que soient les traditions, la justice doit faire son œuvre. Et quand il y a une décision de justice, elle doit être respectée. Voilà.
Bien. Merci, alors, Henri.
Ne laissez sortir personne. Donc
bien. Merci, Henri. Je vous coupe parce que il est temps. 9h39. Et malheureusement, il faut que je passe de la pub. Marie-Jeanne Audi, merci d'être venue nous voir, d'être restée. Et Jean-Pierre Barbier, merci beaucoup, d'être venu nous voir, de répondre aux auditeurs d'RMC. Le débat s'est installé. Il est 9h40, 10h-20. Mathieu Bellier.
Allez, on a beaucoup parlé de Retour vers le futur ce matin. Ça va apaiser les esprits. Trilogie culte, un futur fantasmé, des inventions et du rêve. Nous vous consultons ce matin. Le futur vous fait-il rêver? Vous votez oui ou non par SMS 610-71 et pour l'instant vous votez non à 67%.
Bourdin direct, RMC tout en direct. RMC tout en direct.
On est le 21 octobre, bienvenue sur RMC. Jean-Jacques Bourdin en direct, nom de Zeus.
Retour vers le futur. Vous avez entendu ça?
Ah, génial! Moi, j'avais pas vu ce passage dans le film, moi je me souvenais pas, mais.
Je ne sais pas
qui lançait Jean-Jacques Bourdin, mais.
Ah bon?
Non, mais ça m'avait échappé.
Il y a 30 ans, il ne pensait pas à ça.
Non, bizarrement.
C'est pas dans le film.
C'était pas dans. Ou alors ils l'ont coupé au montage. C'est possible.
Ils l'ont peut-être coupé au montage.
C'est possible.
Non, mais c'est pas. Dites-moi, Retour vers le futur. Anthony, ça vous fait rêver?
Ah oui.
Je rappelle que c'est une trilogie.
Oui.
Et que, ils imaginaient dans ce film ce que nous vivons aujourd'hui.
Ils arrivaient
21 octobre 2015.
C'est ça. Dans le futur, le 21 octobre 2015.
Bon, ils ont imaginé beaucoup de choses il y a 30 ans. Certaines, se sont avérées justes, belles prédictions, belles.
Et puis d'autres,
oui, c'est tout à fait juste. C'est un petit peu planté sur certaines choses. Mais enfin bon, oui. Au moins ils nous ont fait rêver. Alors il y avait l'objet qui symbolise le mieux ce film, c'est celui que je tiens dans les mains et que je vais décrire. C'est le fameux overboard qu'on voyait apparaître dans ce film.
Un skateboard.
C'est un skateboard, oui, mais attention, un skateboard volant.
Sans roulette.
Sans roulette, c'est-à-dire qu'il était capable de léviter à quelques centimètres au-dessus du sol. Et donc le personnage principal du film, Marty McFly, eh bien prenait un overboard et se baladait comme ça au-dessus des trottoirs. Et alors tous les gamins des années 80-90 ont rêvé devant ce overboard. Alors ça, il suffit de regarder dans la rue, il n'y en a pas beaucoup des overboards aujourd'hui, on les voit pas, ou alors ils sont bien cachés. Cela dit, il y a des entreprises, des startups qui travaillent sur des overboards, donc on a des prototypes aujourd'hui fonctionnels de overboards, donc qui peuvent fonctionner, mais enfin bon, on peut pas les acheter aujourd'hui. Voilà, ça c'est une technologie qui était dans le film et qui n'a pas vu le jour. Il y en avait d'autres, hein. Il y avait les baskets autolassantes aussi, baskets qui se lassent toutes seules, c'est-à-dire on chausse la chaussure et hop, elle se referme sur votre pied.
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas encore, mais c'est pareil, ça devrait sortir d'ici la fin de l'année. Bon. Enfin, il y a un modèle qui va sortir.
Il y a la fameuse pizza.
Ah ouais,
il y a plein d'autres choses. Oui.
Le réhydrateur de nourriture, c'est-à-dire vous mettiez une toute petite pizza dans le four et 3 secondes après, de 3 cm et 3 secondes après, elle sortait gigantesque.
Ça n'existe pas, je vous le dis tout de suite.
Ça, de toute façon, je pense que c'est ça. Ça vous plairait pas. Ça vous plairait pas du tout.
Moi, j'aimais bien les. Moi, j'ai revu des extraits. Il y avait un drone qui promenait les chiens.
Ouais.
On y est dans. Ça, c'est possible. 2-3
ans. Dites-moi, mais pour les astronautes ou pour les navigateurs.
Ouais.
Il y a des petits trucs comme ça, lyophilisés.
Ah oui, alors c'est vrai. C'est vrai.
Ils ont pas,
oui,
mais enfin,
c'est
pas.
Oui, c'est ça, le micro-ondes qui vous.
Si. Mais bien sûr,
en
ils ont des.
En 3 secondes, ils vous font une pizza
bien
géante.
Bien sûr, mais pas une pizza géante, mais.
Simplement des aliments plus sains.
Mais non, mais le plat qui est tout petit.
Oui, va grossir.
Va grossir.
Avec l'humidité, ça c'est vrai.
Évidemment, avec l'humidité. Non, mais c'est vrai. C'est à peu près ça.
C'est à peu près ça. Oui, c'est vrai. Ça s'en inspire. Non, mais c'est vrai qu'ils avaient eu. Il y a des prophéties qui se sont réalisées dans le film et des choses qui étaient vraiment très très bien vues à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans le film, on voit par exemple des gens qui discutent en visioconférence, c'est-à-dire par écran interposé. Le personnage principal du film, il se fait virer par son patron par visioconférence.
Bah ça arrive aujourd'hui.
Ça peut arriver aujourd'hui. Hein, ouais. Voilà, donc on a FaceTime, on a Skype, ça paraît évident aujourd'hui, mais enfin en 89, la visioconférence, si vous voulez, c'était pas du tout évident. Les écrans plats aussi. On voit des écrans dans le film qui sont extrêmement fins. À l'époque, vous vous souvenez des télés, hein, dans les années 80, c'était des cubes.
Ça
prenait un coin de la pièce. Enfin voilà. Donc ils avaient imaginé quand même un certain nombre de choses. Les empreintes digitales dont on peut se servir pour ouvrir des portes dans des lieux sécurisés, par exemple, on voit la police qui se sert de ces empreintes
digitales.
Ils n'avaient pas
le paiement par empreinte digitale.
Le paiement par empreinte digitale. Ouais, on paye son taxe. Par empreinte digitale dans Retour vers le futur. Et ça c'est en train d'arriver, ça c'est des choses qui existent. Donc il y avait plein de choses quand même.
Alors,
qui sont...
j'ai plein d'auditeurs. Ouais. Parce qu'on pose la question aux auditeurs
le futur vous fait-il
le
rêver,
futur rêver.
Mais c'est vrai qu'ils avaient plein d'imagination il y a 30 ans.
Ah, mais bien sûr.
Le futur vous fait
le
rêver.
Le futur d'aujourd'hui par rapport à dans le futur ou le futur de 89 par rapport au futur.
Le futur d'aujourd'hui.
Je ne ferais pas ce métier si ça ne me faisait pas rêver. Franchement, non mais.
Je vous pose une question idiote.
Mais vraiment, non mais je veux dire, vraiment tout ce que je vous raconte le matin. Alors, il y a des choses.
7h-5, ne ratez pas Anthony Morel tous les matins, parce que c'est génial.
Mais il y a des choses qui peuvent. Moi, je trouve que les deux aspects sont pas incompatibles. Il y a des choses qui peuvent nous faire peur ou nous repousser, et il y a des choses qui peuvent nous fasciner. Quand on voit les avancées technologiques dans le domaine de la santé, par exemple, se dire que grâce aux implants bioniques, grâce aux exosquelettes, on va avoir des gens qui vont être capables de vivre, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps que certains scientifiques nous disent qu'on va être capable de vivre plusieurs centaines d'années potentiellement grâce à ces. Mais bien sûr, vous avez des gens, des scientifiques très sérieux qui nous disent ça. C'est vraiment des choses extraordinaires qui sont en train de se profiler. Et puis dans la vie de tous les jours, ça va être la voiture autonome. On n'a pas les voitures volantes comme de Retour vers le futur, mais des voitures qui se conduisent toutes seules, ça fait rêver aussi.
Alors j'ai Laurent qui nous dit, il y a un petit détail dans Retour vers le futur. Les taxis de Hill Valley de 2015 sont des Citroën DS.
Ah c'est vrai, je me souvenais pas de ça. Je ne sais. Ah bon ?
Mais en tout cas, la marque DS est repartie, relancée.
Il l'avait vu.
C'est
pas mal.
Il l'avait vu à temps.
Ah, je vais vérifier.
Ouais, ouais.
Bon, d'accord. Ouais. Allez, on va prendre des auditeurs dans un instant. 9h49. Restez là, Anthony, évidemment, avec nous. On va prendre des auditeurs dans un instant. Mathieu Belléard.
Notre consultation, le futur vous fait-il rêver? On vous demande de voter oui ou non par SMS 6-10-71. Et pour l'instant, votre réponse est non, malheureusement, 66%.
RMC, tout en direct.
Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Mais on est vraiment dans le futur.
Ce qui est incroyable, c'est qu'en 30 ans, Marty McFly n'a toujours pas mué.
Il a toujours pas mué, oui, c'est vrai. Non, on a toujours la même voix. 30 ans après. Dites-moi, j'ai Coventry. J'ai Stanislas qui habite à Coventry, qui est un auditeur fidèle en Grande-Bretagne, qui nous dit, mais je visite régulièrement le musée de l'automobile de Coventry, où est exposé depuis des années le même modèle que la fameuse DeLorean qui a servi pour le tournage du film dans sa version acier inoxydable. Et à chaque fois, c'est un plaisir de l'admirer.
Ah bah oui, ouais. C'est...
Et oui. Culte. Dites-moi, on va prendre Frédéric et Jennifer. D'abord Jennifer. Bonjour Jennifer.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous serez au Grand Rex ce soir. Parce oui, qu'il y a une grande soirée à Paris. Retour vers le futur.
Oui, j'ai mes places depuis le jour de mise en vente, depuis le 8 décembre dernier.
Ouais. Vous allez rencontrer... vous avez eu la chance de rencontrer Christopher Lloyd, je crois, le mois dernier.
Oui, tout à fait, en Belgique.
Ouais. Jennifer, vous êtes fan. Pourquoi est-ce que vous êtes fan de Retour vers le futur? Qu'est-ce qui vous fascine?
Écoutez, c'est tout l'univers qui m'a toujours fait rêver. La vision du futur en particulier, en effet. Donc c'est vrai que pour moi, la date d'aujourd'hui est importante. Retour vers le futur 2, oui, quand j'étais petite, voilà, c'était la vision du futur. Et j'ai encore du mal à réaliser qu'on y est aujourd'hui. Et c'est vraiment une grande journée pour moi.
Ouais, Anthony.
Mais il y a un côté très générationnel aussi dans ce film. Enfin, je pense que ça fait pas le même effet pour les gens qui l'ont vu à l'époque qui avait 10 ans et puis des gens qui l'ont vu alors qu'ils étaient adultes. Moi, je l'ai vu quand j'étais gamin et c'est vrai que c'était vraiment la vision. Quand on pensait futur, on pensait retour vers le futur, ouais. Parce que c'est ça. Bon, pour moi, c'était ça le futur, c'était la voiture volante, c'était
l'overboard.
Ça met un coup de vieux. Non, mais j'en discutais ce matin avec des gens de la rédac qui ont 20 ans qui disaient, mais moi, j'étais même pas né quand le film est sorti, je sais pas ce que c'est un overboard. Ouais. Là, tout à coup, on se dit, ah ouais, d'accord, ouais, c'est ça. On n'a pas la même vision du futur.
Voilà, attends, Jennifer, vous restez là, hein. On a encore 2-3 minutes. Frédéric est aussi avec nous. Bonjour, Frédéric.
Oui, bonjour, monsieur Bourdin.
Vous aviez 8 ans quand vous êtes allé voir le premier film de la trilogie.
Oui, c'était le dimanche 3 novembre 1985. Ma famille avait été intriguée par ce titre bizarroïde et on avait passé un excellent après-midi donc pour le premier épisode à l'époque. Et déjà, le charme avait opéré, hein, comme des millions de téléspectateurs. Donc j'avais été ébloui par le savant fou, par la voiture à remonter le temps. Hein, oui. Et ce voyage dans les années 50 qui était vraiment vraiment un pari osé déjà à l'époque.
Mais ça vous a marqué, hein, Frédéric? Marqué à tel point que complètement. Tout au long de votre vie depuis.
Alors, c'est surtout l'épisode 2 en 1989 qui a révélé vraiment la bête en moi, c'est-à-dire que ce voyage dans le futur, cette complexification de l'histoire, ces effets spéciaux et la promesse du troisième épisode m'avaient complètement ébloui. C'était une histoire sans nul autre pareil, parce que la littérature et le cinéma regorgent d'histoires temporelles, mais aucune n'atteint la trilogie Retour vers le futur à la cheville. Retour vers le futur, c'est vraiment un monument, un ovni dans l'histoire du cinéma, quelque chose qu'on n'oublie jamais et qui continue de fasciner 30 ans après. Vous vous rendez compte, toutes les générations s'y retrouvent, toutes les générations connaissent, et on en parle encore aujourd'hui, surtout cette date de 21 octobre 2015, à laquelle Doc, Marty et Jennifer arrivent donc dans le Hill Valley du futur, qui est aujourd'hui notre présent. C'est complètement extraordinaire, surtout que les acteurs sont toujours vivants de nos jours.
Oui, bon, Jennifer...
Et que je les ai rencontrés en plus.
Et comme Jennifer, alors bon, Jennifer, oui. vous adhérez à tout ce que dit Frédéric, j'imagine.
Ah oui, tout à fait. Je suis totalement fan de la trilogie. Il n'y a même pas d'explication. C'est des moments fabuleux à partager entre amis. Je suis membre de différents forums. J'ai même des amis qui sont aux événements actuellement aux États-Unis. Parce que là-bas aussi, hein, forcément, il y a différents événements dans le monde entier qui sont organisés. Donc ce soir, on se retrouve à une dizaine d'amis pour aller voir la trilogie au Grand Rex.
Vous êtes Jennifer de Blois?
Oui, tout à fait.
On se connaît sur le forum. Non,
on s'est vu en 2048.
C'est retour vers le futur. Bravo, vous connaissez.
Le monde est petit, oui, vous voyez. Le monde entier.
Eh bien, écoutez, merci, je vous ai réunis. Merci Frédéric, merci Jennifer. Tous les deux, vous avez vu ça?
Mais c'est extraordinaire.
C'est la magie.
Mais c'est ça. C'est
la magie, RMC. Non, mais...
Mais oui, mais bien sûr.
Bon.
Et conseil à tous les auditeurs les plus jeunes, voilà, ceux qui ne connaissent pas ce film,
ou les plus vieux.
Découvrez-le. Ou les plus vieux. Non, mais les,
surtout
les
que plus, surtout que eux ont mis quelques secondes à arriver en 2015. Nous, il nous a fallu 30 ans. Donc
exactement.
Profitez-en,
donc profitez-en. Allez voir le film, découvrez-le. C'est un très bon film. Voilà, vraiment.
Bien, merci beaucoup, Anthony. On vous retrouve demain matin, évidemment, toujours avec le même plaisir. Hein. Et Mathieu Béliard.
Désolé de casser l'ambiance. Le futur vous fait-il rêver? J'ai une réponse finale qui dit non à 70%.
Bien, nous serons là demain. Toujours avec le même plaisir demain.
Nous sommes au mois d'octobre, le mercredi 21 de l'an 2015.
On est en 2015? Vous voulez dire qu'on est dans le futur ?